Benoît-Henri Van Leer a décrit Tintin comme une lune tantôt. C'est justement sur la lune qu'Hergé va entraîner Tintin avec Objectif Lune, et on a marché sur la lune avec d'ailleurs une précision monstre de détails scientifiques qui rend ces deux albums très plausibles, je crois. Est-ce que Hergé serait le Jules Verne de la bande dessinée?
Eh bien, oui, certainement. Je crois qu'il y a des homologies, non seulement de thèmes, puisqu'effectivement Jules Verne a aussi fait plusieurs romans vers la Lune ou autour de la Lune, mais aussi de conception de structure, de conception de l'imaginaire. Enfin, bon, j'avais essayé de montrer dans un travail, ce serait un peu long à répéter ici, mais des rapports, entre autres, entre l'île mystérieuse de Jules Verne et un certain nombre de récits, entre autres l'oreille cassée, etc. Enfin, les récits qui n'avaient pas l'air d'être immédiatement rapport et montrer comment il y avait un certain nombre d'images, de vraiment de thèmes, de détails qui réintervenaient. Alors évidemment, prenant le thème lunaire, là, ou le reprenant à Jules Verne, il se trouve vraiment sur son terrain. Mais déjà dans L'étoile mystérieuse, il y avait un côté très très vernien. Enfin, il y a La chasse aux météores qui est un roman de Verne, et cette idée de la recherche d'un astéroïde tombé, comme ça, c'était tout à fait du Jules Verne. Enfin, et aussi cette manière de typer les personnages, très proche de Jules Verne. Alors, quand Hergé lance Tintin, Doc et Tournesol, surtout, dans l'aventure lunaire, il le fait pourtant avec d'autres possibilités scientifiques que Jules Verne, puisqu'évidemment, on sait que chez Jules Verne, c'est assez fantaisiste comme description. Il s'agit d'une espèce d'obus qui est propulsé par un canon, enfin, d'une puissance extrême et qui arrive jusqu'à la Lune. Bon, chez Hergé, il y a une documentation qui est fondée sur les connaissances scientifiques de l'époque, c'est-à-dire connaissances scientifiques de la fin des années 40 et du début des années 50, malgré tout, peu d'années avant le début vraiment des grandes explorations dans l'espace. Donc quelque chose d'assez solide et d'assez plausible, bon, même si la fusée d'Objectif Lune pourrait nous faire un petit peu sourire maintenant. Bon, on a vu autre chose, mais bon, pour l'époque, c'était quand même déjà pas mal du tout, et beaucoup des problèmes qui sont posés dans l'album sont très, très sérieux et très, très solides. Mais moi, ce qui me semble le plus intéressant, c'est évidemment la part de rêve et de anticipation que ça représentait. Et il faut imaginer, par exemple, que la première fois qu'Hergé a proposé son titre, On a marché sur la Lune, dans le journal Tintin et un peu partout, tout le monde lui a dit, mais c'est complètement fou, c'est pas un titre ça, On a marché sur la Lune, c'est pas un titre, il faut mettre, je sais pas moi, Tintin en route vers la Lune, ou je ne sais quoi, mais On a marché sur la Lune, ça ne va pas. Et quand on pense maintenant au poids que peut avoir cette expression, eh bien, on comprend à quel point Hergé avait vu juste et avait compris que l'événement essentiel n'était pas Tintin sur la Lune ou Haddock sur la Lune. C'était l'idée « on a marché sur la Lune ». Alors, magnifique idée, puisque à la fois « on a marché », c'est-à-dire c'est l'exhibition du réel par un « on » qui semble être le « on », l'humanité a marché, et en même temps, à qui ce « on » renvoie-t-il ? À des personnages qui ne sont que des personnages de papier. Donc, c'était une espèce de jeu, là, entre l'imaginaire et le réel, comme de faire croire tout d'un coup que ces albums étaient dans la sphère de la réalité pour emporter la conviction de son lecteur. Bon, et en même temps, cette espèce d'ironie de « on a marché sur la Lune » et puis en même temps, bon, il y a toute la fameuse histoire là, sur les traces de pas. Y avait-il les traces de pas ? Bon, le titre semble prendre tout ça. Cependant, je dirais, malgré tout ce côté mythologiquement très, très fort et très puissant, qui devait être encore plus fort pour les lecteurs de l'époque, d'avant la conquête de l'espace, que pour les jeunes lecteurs d'aujourd'hui. Je ne connais pas très bien les réactions des enfants d'aujourd'hui sur ce double album, mais ça serait intéressant de voir s'il fonctionne toujours avec la même efficacité. J'ai tendance à penser que ce n'est pas un des plus réussis des albums d'Hergé. Et Hergé a tendance à dire un peu la même chose, à être assez sévère vis-à-vis de cet album, en disant, si je me souviens bien de la formule, qui, je crois, est dite à Numa Sadoul, « Pour moi, le voyage interplanétaire est un sujet vidé. » Formule qui est déroutante et intéressante, je trouve, et qui semble indiquer, enfin, je crois que l'idée d'Hergé est celle-ci, que finalement, si un récit avance en proportion des obstacles que les personnages peuvent rencontrer, le nombre d'obstacles que l'on peut rencontrer dans un voyage interplanétaire fictif est relativement réduit. En effet, il y a deux sortes de gros obstacles. Il y a l'obstacle externe, bon, soit un obstacle dans l'espace, soit bon, comme les ennemis de Tournesol qui essayent de détruire les fusées, etc., bon, de l'extérieur, ou alors l'obstacle traditionnel qui est en quelque sorte le passager clandestin. extension du thème du passager clandestin qu'on retrouve dans Alien, hein, le monstre qui est à bord, etc. Mais bon, ce thème du passager clandestin, qui est exploité avec énormément de brio par Hergé dans Un marché sur la Lune, bon, parce qu'il y en a... Il y en a plusieurs, enfin, je veux dire, qui hein, ils poussent le jeu jusqu'au bout. Il y a presque des combats de passagers clandestins. Eh bien, c'est un thème malgré tout limité. Parce qu'on ne peut pas faire 50 histoires basées sur des passagers clandestins dans des vaisseaux spatiaux. Enfin, il y a un moment où, ok, on part, le vaisseau part, et puis qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce que ça sera cette fois-ci un monstre, un bébé ou une meute de loups-garous? Il y a un moment où... où on sent que cette possibilité, finalement, reste minime et ne permet pas autant d'exploration et d'invention que peut-être des situations plus terrestres. Et à mon avis, d'un certain point de vue, tout en étant très fort et en se tirant très habilement de cette contrainte, Hergé était plus à son aise, peut-être, et plus virtuose dans d'autres albums que celui-là.
Avec ce duo d'albums, Hergé a montré que chez lui, la fiction dépassait souvent la réalité. Nous allons entendre maintenant Luc Honoré, qui est un rédacteur au journal Le Soir, raconter une histoire qui montre exactement l'inverse, où la réalité justement dépasse la fiction.
Rapidement, un événement qui m'a beaucoup plus marqué dans les rencontres avec Hergé, c'est que j'ai eu cette chance fabuleuse, bon, j'ai l'air de me vanter, mais je le pense, soudain de faire partie presque du monde d'Hergé, des personnages d'Hergé dont je vous parlais tantôt. On vole le fétiche Arumbaya à l'exposition Le Monde de Tintin qui se tenait au musée imaginaire de Tintin, qui se tenait au Palais des Beaux-Arts en 79. Bon, gros événement journalistique. Hein, je décide de bondir là-dessus, et j'ai ma petite idée sur le voleur. Je soupçonne fortement Pierre Sterckx, qui est un grand intinologue, d'avoir organisé cela. C'était tout à fait dans le genre farceur qu'il aime bien, farceur et en même temps faire que la vie soudain fasse partie de la bande dessinée. Et carrément, je lui donne un coup de fil, je dis « Écoute, Pierre, je crois que c'est toi qui as volé ce fétiche à Rumbaya. Si tu veux, réussissons un coup. » Je viens avec un photographe, tu mettras une cagoule et je t'interviewe. Et il me répond, écoute, malheureusement, j'aimerais beaucoup faire cela, mais zut, c'est pas moi qui l'ai volé. Bon, ça tombait à l'eau. Et un jour plus tard, j'avais donc fait un papier relatant tout cela, un jour plus tard, nous recevons ici au journal une lettre anonyme disant, c'est moi qui ai volé le fétiche à Rumbaya, je vous donne rendez-vous, à vous et à Hergé, au Palais des Beaux-Arts, à 3h, je crois. Ayez sous le bras droit un album d'Hergé, l'oreille cassée. Bon, je téléphone immédiatement à Hergé, il est d'accord pour venir, il vient avec des amis, et nous retrouvons dans le Palais des Beaux-Arts, dans la salle du Palais des Beaux-Arts, l'air de rien, avec un album de Tintin sous le bras. Et vraiment, c'était du cinéma, parce qu'on essayait de prendre un air naïf, l'air de rien, on observait tout le monde, Hergé était dans un coin, moi j'étais dans un autre. J'allais parfois près des gens, les regardant bizarrement et en leur montrant du doigt l'album que j'avais sous le bras. Les gens très interloqués se demandaient qu'est-ce que c'était que ce personnage qui venait les embêter en pleine exposition. Et on a traîné comme ça pendant une heure dans le Palais des Beaux-Arts. Et malheureusement, le voleur ne s'est pas manifesté. Peut-être a-t-il vu, il y avait des gardiens en grand nombre. Ou bien alors, pour être tout à fait logique avec les albums d'Hergé, je ne suis pas sûr qu'Hergé et moi ayons vraiment tenu l'album sous le bras droit. Je crois qu'on l'a tenu sous le bras gauche et qu'on n'a pas vraiment rempli le contrat. Cela dit, Hergé était très très touché par le vol de ce fétiche à Rumbaya. C'était pas du tout une farce pour lui. C'est allé jusqu'à la police, cette histoire-là. J'avais même été convoqué par la police Ducle pour témoigner, pour montrer la lettre anonyme que nous avons reçue. Et Hergé était très fâché, je crois. On n'a jamais eu le fin mot de cette histoire. Je ne sais pas si Hergé le connaît. Ça dit, c'est bien dommage, soit pas Pierre Sterckx qui l'ait chippé. Ça aurait été très très drôle. Thank you.
undercover eyes, set to find the key to alibi. Living in a hideaway, you can't hide, you can never get away. They'll find you being aware of strangers in the dark. The throwing daggers from your eye. Maybe they can find a way past their pride. Maybe let it die away. If not, they'll ride a lot and fight a lot. Or do the way falls in the end and fight in the night. And go wherever you are.
L'affaire Tournesol nous ramène au pays de l'Est, en Bordurie, un pays voisin de la Sildavie, avec une description très acide des pays totalitaires et du culte de la personnalité, selon qu'on lise au premier degré ou au deuxième degré. Je crois, moi, que Hergé n'aime pas du tout les pays totalitaires. Et c'est pas la première fois, déjà d'ailleurs, dans les soviets, on retrouvait cette haine pour les pays totalitaires.
Oui, ça c'est certain qu'on n'infra pas d'Hergé. Un chantre du totalitarisme, je crois que personne ne s'en plaindra. Il y a peu de gens qui sont des défenseurs inconditionnels du totalitarisme, en soi, de l'idée totalitaire. On peut après préférer certaines formes de régime ou certaines formes d'idéologie à d'autres, mais je connais peu de gens qui se réclament du principe du totalitarisme. Voilà, on arrive à le dire quand même. Ce qu'on peut dire quand même sur l'affaire Tournesol, c'est que c'est pas simplement une analyse du totalitarisme, mais que c'est un album qui arrive à traiter des sujets d'une très très grande complexité avec un dégagement complet. Ça c'est très étonnant aussi, c'est-à-dire qu'il arrive dans cet album à traiter de questions aussi graves que la possibilité de l'arme absolue, etc., autour d'une histoire de parapluie. Parce que c'est ça toute l'histoire de l'affaire Tournesol. On parlait tout à l'heure des retours d'objets, de l'objet autour duquel un récit se centrait. Eh bien, dans l'affaire Tournesol, tout tourne autour d'un parapluie que Tournesol cherche tout le temps, qu'on n'arrête pas de retrouver puisqu'il l'a perdu, qu'on finit par perdre, dans lequel Tournesol affirme au dernier instant avoir caché les précieux microfilms qui contiennent le secret absolu. On retrouve enfin le précieux parapluie au milieu des objets trouvés, au milieu d'une quantité infini d'autres parapluies, de même qu'on retrouvait d'abord des fétiches en énorme quantité, donc cette espèce de prolifération d'objets qui deviennent dérivoires.
Qui était aussi contenant d'ailleurs.
Absolument. Et puis, il ouvre rien. Ça, c'est extraordinaire quand même. On cherche le parapluie tout le temps, on ouvre absolument pas de microfilm. Et au dernier instant, l'aventure s'annule, la trajectoire est ramenée à zéro, c'est-à-dire que tous ces problèmes extraordinaires qui avaient été agités sont ramenés à presque rien. Les microfilms avaient été oublié sur la table de nuit et Tournesol à cette phrase sublime. Donc moi qui ne suis pourtant jamais distrait, je les avais laissés sur ma table de nuit. Et on a couru, on a risqué sa vie de multiples fois, on a agité les plus grands problèmes de l'heure, et tout ça pour rien, pour pour quelques microfilms oubliés sur une table de nuit. Ça, c'est admirable. C'est à la fois cette manière pour Hergé de traiter un problème essentiel et qu'il juge essentiel, et vraiment qu'il traite comme un problème très sérieux, pas du tout comme un fantasme pur, mais vraiment comme un problème sérieux qu'il traite avec énormément d'intelligence et de finesse politique. Mais en même temps, tout cela, c'est juste comme ça. On vous le racontait en passant, mais ne croyez surtout pas qu'on insiste trop, qu'on y croit trop. C'est complètement anti-jacobsien comme idée. Alors que le système de l'affaire Tournesol, le fondement de la fiction de l'affaire Tournesol, est le plus jacobsien des sujets d'Hergé. C'est vraiment un sujet pour Jacobs. Hein? C'est cette idée d'arme absolue, d'un pays qui veut tout détenir, etc. Bon, mais c'est un peu un mélange du secret de l'Espadon et de la marque jaune, en fait. Hein? Et d'un peu tous les Jacobs. Eh bien, c'est sur cet album-là qu'on voit le plus comment tout cela, Hergé le traite à travers de l'image. Et il y a d'ailleurs une séquence sublime, une des plus belles séquences d'Hergé, qui est, enfin moi je me souviens, ça me fascinait quand j'avais 8 ans, je trouvais ça fou, c'était la séquence de la destruction de cette ville qui n'est pas nommée, à laquelle on reconnaît New York, qu'on voit s'effondrer, et puis on tourne la page, et de l'autre côté de la page, on aperçoit qu'il ne s'agissait que d'images de télévision et que cette cité qui avait été prétendument détruite n'était en fait qu'une maquette, une maquette comme celle qu'utilise Hergé, une maquette qui est à l'échelle de ces images et qui avait été détruite par un appareil miniaturisé. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est montré que tout ne se passe que dans l'image, qu'à travers l'image, que ce poste de télévision qui nous montre la destruction, c'est vraiment la métaphore de l'album. C'est, on est dans l'ordre de l'album, on nous donne une représentation des choses, mais jamais les choses elles-mêmes. Et ne prenons pas tout cela trop au sérieux. Comprenons bien tout ce qui se passe, tout ce qui s'agite là, mais en même temps, gardons-nous de croire que tout cela est trop infiniment sérieux. Voyons qu'il ne s'agit que de représentation des choses, que d'images, que de simulacres. Et ça, c'est une, je dirais, c'est une espèce de leçon politique encore plus forte que le contenu même de l'album. De comprendre ça, de comprendre ce jeu de l'imaginaire, ce jeu de ce que peut être une histoire intense racontée dans un médium léger, disons.
Pour illustrer le côté critique d'Hergé, nous allons entendre d'abord Hergé au micro de Stéphane Stemann, puis Jacques Skepmans commentant tous les aspects critiques qu'ils ont trouvés dans son œuvre. Ensuite, Jacques Skepmans parlera des Picaros.
Le chansonnier, l'un des chansonniers les plus célèbres et les plus mordants, oui, parce que vous êtes de notre époque, parce que vous êtes tout de même un dessinateur qui avait croqué les pays comme les chansonniers croquent des personnalités. Vous avez croqué les pays avec tous leurs défauts, surtout
oui.
Avant leur qualité, oui, c'est-à-dire que s'il fallait résumer les choses, bon, eh bien, en Chine, il y a pas mal de drogue, en Amérique, il y a beaucoup de gangsters. Parlons pas des soviets, hein, au Congo et les autres. Est-ce que cela vous a déjà valu des ennuis?
Des ennuis, oui, des attaques, disons. Oui, des attaques où on me traite de vilain raciste, n'est-ce pas? Or, si j'étais raciste à l'égard de certaines races, non, je l'ai été avant tout à l'égard des Blancs, me semble-t-il. Il y a une collection incroyable de ministres prévaricateurs, de policiers qui ne sont pas intègres, de marchands de canons, de marchands de pétrole qui fomentent des guerres. Et tout ça sont des Blancs, je crois. Et donc, si je donne un coup de patte en passant à...
On pourrait dire qu'être raciste, c'est aussi ne pas aimer sa propre race.
Non, mais c'est-à-dire que c'est sans distinction, voyez-vous. Je ne considère pas la race blanche comme supérieure. Dans le Lotus Bleu, prenons cette œuvre classique et magistrale. Hein. Au début, il y a un Blanc qui se dit, mais qui frappe sur un conducteur de pousse-pousse, sinon mais parce qu'on les tire, et il le frappe en disant, ah, comment ces Chinois ne comprennent rien, qu'est-ce que c'est que ça, nous qui leur apportons notre belle civilisation occidentale, etc., etc. C'est bien la preuve que je ne participe pas de cet état d'esprit-là, enfin. Donc il y a une critique permanente dans Tintin, aussi à l'égard de tout le monde. à l'égard de tout le monde, aussi bien des blancs que des noirs, que des jaunes, que tout ce qu'on veut. On a... Certains.
Oui, ben, bien sûr, c'est pas mon avis de toute façon,
c'est
exprès d'attirer l'attention là-dessus. Il y a aussi, il faudrait quand même peut-être mettre au point les choses, je sais que vous répondrez franchement, on a dit que Tintin au pays des Soviets avait été un jour censuré, pour des raisons politiques à l'époque, et on a dit également que Tintin au Congo n'avait pas pu sortir au Congo parce qu'il avait été censuré. Alors, qu'en est-il exactement? Rétablissons la vérité, moi, votre historien.
Voilà, justement. Tintin au pays des Soviets, d'abord, que ce soit un livre partisan, c'est évident. C'est évident, c'est comiquement partisan. Mais enfin, c'était...
À l'époque, vous étiez très sincère.
Ah oui, mais j'étais dans un journal catholique où on mangeait du bolchevique à tous les repas. Alors, il est bien certain, moi, je participais de cette atmosphère. Et il venait de paraître un bouquin, d'ailleurs, à cette époque, qui s'appelait « Moscou sans voile », d'un consul belge, écrit par un consul belge, Joseph Douillet, consul à Rostov-sur-le-Don, et dans lequel il dénonçait les turpitudes de ce régime. Alors j'ai emboîté le pas, moi, j'ai attaqué violemment l'URSS. Ils ont l'air de s'en être remis depuis lors, vous ne trouvez pas? L'URSS, ils sont remis de ce choc, hein?
Oui,
ils ont l'impression. Moi, je crois.
On n'avait jamais eu de bombe de cocktail Molotov.
Non. Enfin.
Avenue Louise, bon.
bon, c'est certain. S'il n'a pas reparu, Tintin, au pays des Soviets, c'est tout simplement pour des raisons techniques. C'était au début, mes albums étaient en noir et blanc. Les clichés de Tintin au pays des Soviets étaient partis à Paris pour être publiés dans un hebdomadaire français et ils étaient revenus démolis. Et mon éditeur n'avait jamais pensé ou n'avait jamais voulu, faire des frais, enfin de les refaire à l'époque, ces clichés-là. Donc il n'y a pas eu d'interdiction. Il y a eu simplement mise en veilleuse. Pour Tintin au Congo...
Comment se fait-il alors qu'il en reste si peu, Tintin?
Mais on a édité ça à l'époque, on en a tiré 10 000, pas plus. À l'époque, c'était en 1930, on a tiré 10 000 Tintin, c'est encore miracle qu'il en reste.
Et il en reste à votre avis combien?
Je n'ai pas la moindre idée.
C'est vrai qu'à mon avis...
J'en sais rien, moi.
Non.
Point.
Ce serait pas à ce prix-là, alors.
Ah non, je n'ai pas la moindre idée.
Moi, je crois 40 ou 50 en Belgique.
Pas davantage.
Pas plus.
Ah, c'est possible.
On sait où ils sont, hein. Ils sortent maintenant, petit à petit, dans les petites annonces,
un peu partout.
Alors. Et au Congo, lui, alors...
Le Congo, lui, c'est différent. Il est certain que j'ai fait ça, moi, j'avais 22 ou 23 ans à l'époque. Je n'ai pas été au Congo, j'avais fait ça d'après les récits de coloniaux, tu sais, hein, vous savez, ses nègres, ses grands-enfants, etc. C'était la vision de l'époque à laquelle j'ai cédé, je l'avoue. Je les considérais en effet comme des enfants. Et si on ne l'a pas réédité, on l'a réédité pendant très longtemps, sans le moindre ennui. Et c'est mon éditeur qui un jour a estimé que pour ne pas faire de peine à nos amis là-bas, il valait mieux le retirer de la circulation.
Ce qui est très gentil, tu sais. Hein?
Alors on l'a retiré de la circulation, mais il reparaît actuellement et il reparaît à Kinshasa. Il a reparu à Kinshasa dans la revue Zahir à la demande de Kinshasa. En fait. Donc, il n'y a rien.
Mais d'ailleurs,
pas de censure, il n'y a jamais eu de censure.
Est un témoin exactement dans la mesure où, comme je citais les grands reporters de l'avant-guerre, Tintin est un témoin absolu, puisqu'il est mêlé aux grands événements de l'Europe et du monde avant le grand conflit, avant le grand éclatement. Et non seulement c'est un journaliste témoin, c'est aussi un journaliste engagé, dans la mesure où ses aventures le poussent à prendre parti à certains moments pour les plus faibles, les plus opprimés, pour ce qu'il croit être la justice. À ce moment-là, il en tire donc des conclusions morales, puisque ces conclusions morales le poussent à choisir un camp. Il le fait donc pour des raisons, non pas idéologiques, qui est un mot que je récuse, mais pour des raisons idéalistes, qui est un mot trop galvaudé. Conservateur, simplement dans la mesure où Hergé n'a jamais voulu s'engager dans un camp bien déterminé, le camp que l'on baptise peut-être abusivement, je n'ai pas mon propos ici, de progressiste. Je ne crois pas qu'Hergé soit conservateur. Au contraire, si l'on reprend les bandes dessinées d'Hergé, les grands reportages de Tintin, ses grands engagements. Mais Tintin n'est jamais du côté du manche. Il est toujours du côté du plus faible, il est toujours du côté de la victime. Et ça se retrouve même dans les Hergé d'après-guerre. Le jour où Tintin se retrouve en Chine, mais il est évident qu'il est du côté des travailleurs chinois contre les Japonais, contre l'oppresseur japonais. Il est contre les trafiquants d'armes, il est contre les rois du pétrole, il est contre l'exploitation colonialiste, sauf peut-être dans Tintin au Congo, mais cela on peut y revenir, c'est un cliché belge. Mais dès que Tintin prend, Hergé prend sa dimension, dirons-nous, universelle, en tout non-conformisme, c'est-à-dire en se refusant tout schéma, qu'il soit philosophique ou politique, il dénonce toujours l'injustice. Et c'est là que je crois qu'il reprend aussi un des auteurs d'avant-guerre qui disait beaucoup, qui était Gaultier-Boissière et Le Crapouillot. Le Crapouillot a également dénoncé pendant la guerre d'Espagne les crimes fascistes, comme il a dénoncé les crimes communistes, comme il a dénoncé les persécutions dont étaient victimes les trotskistes. Donc là, il y a également une volonté de non-identification à une idéologie dominante, ce qui est très important peut-être pour apprécier Hergé. Nous l'avons dit tout à l'heure, Tintin chez les soviets. C'est exactement la vision que devait avoir un petit étudiant d'Action catholique au début des années 20, des années 30, dans Tintin au Congo. Mais c'est l'image scolaire qu'on m'apprendra moi-même jusqu'en 1960, à l'école laïque et officielle, parce que je me flatte d'être projeton de l'enseignement laïque et officiel, qu'on m'apprenait moi-même avec le bon nègre. Et à l'exposition de 58, on avait encore pour montrer le Zaïre, enfin le Congo, tout ce qu'on avait trouvé à faire, c'était reconstituer un village indigène. Donc c'était une projection paternaliste. Donc là, il n'y a pas du racisme, c'est simplement que je pourrais appeler des idées reçues. Finalement, chez Hergé, il y a beaucoup d'idées reçues, il est la parfaite projection d'un certain monde. Alors dans Tintin et Picaros, là, il se retrouve des contingences politiques, mais c'est avec un décalage, non pas horaire, mais un décalage d'âge, où on voit l'évolution de l'homme, où on voit l'homme qui a vieilli, qui a mûri, certaines amertumes, les procès, entre guillemets, d'intention, les ennuis qu'on a voulu lui faire à Libération. Et il y a un certain pessimisme qui s'installe malgré tout. Il reprend un peu cette vieille philosophie que Simone de Beauvoir exprime dans « Tous les hommes sont mortels ». Dans « Tous les hommes sont mortels », il est certain qu'à ce moment-là, on a beau faire la révolution, tant que ça change, plus ça change, plus c'est la même chose, comme disent les braves gens. Or, que voit-on? Tintin est entraîné par la force des choses à appuyer un mouvement de libération qui se transforme dans la dernière image par une substitution de dictature par une autre dictature. Or, Automate Hergé, donc, n'a plus d'espoir à son âge dans un grand changement, un grand bouleversement qui amènerait la bonté au pouvoir. Disons que c'est la pirouette de l'homme qui approche des 70 ans. Thank you.